Au commencement, il y a un appel, une promesse et un départ. Le voici, cet appel, cette promesse et ce départ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Ce commencement, c'est le commencement de l'histoire d'un peuple dont nous sommes héritiers, dont nous reconnaissons aujourd'hui la racine et que nous poursuivons cette histoire. Ici commence notre histoire avec Dieu. À travers quelques étapes de ce peuple, je voudrais qu'on puisse voir, entendre quelque chose de l'unité des chrétiens. Qu'elle passe non pas dans une homogénéisation de nos églises, mais par le fait de se reconnaître tous comme faisant partie d'un même peuple, le peuple de Dieu. Au commencement donc, était un appel, une promesse, un départ. L'unité chrétienne, elle, a son appel. Soyez unis comme mon Père et moi sommes unis. Et cette promesse est devenue un peuple. La promesse d'Abraham est devenue un peuple nomade. Abraham eut Isaac, Jacob. Jacob eut 12 fils qui formèrent les 12 tribus d'Israël. Nous connaissons tous la captivité en Égypte et comment, grâce à Moïse, Dieu délivre son peuple. Et puis vient le désert. 40 ans. Un moment que nous sous-estimons parfois dans l'importance qu'il a dans la fondation de ce peuple. Dans le désert, oui, le peuple a reçu les 10 commandements, mais pas que. Nous écoutons un texte qui nous vient du livre des Lévitiques, la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10.
Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste, les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste, coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre, devant l'Éternel, les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva les mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel.
Un texte étrange, long, que je pense nous lisons très rarement et encore peut-être plus rarement durant nos cultes. Un texte qu'on relègue parfois à la part archaïque de la Bible, on se dit oui, alors tout ça me dépasse un petit peu, ces bêtes égorgées, ce sont versées, et puis ces deux prêtres brûlés, quel sens lui donner vraiment, texte plutôt obscur. Et pourtant, c'est parti du livre du Lévitique, un livre extrêmement bien construit, en chiasme, ça fait A, B, C, D, A, avec au milieu la chose la plus importante, le jour du Yom Kippour, du grand pardon. Et tout le livre, en fait, nous dit comment par le rituel, Dieu et les hommes sont en bien, comment les hommes peuvent être pardonnés, être en bien avec Dieu, être purs devant Dieu. Tout le thème du Lévitique est là-dessus. Et dans la partie qui parle des prêtres, il y a ce texte-là, un petit peu étrange. Est-ce qu'ils ont amené du feu étranger ? D'un coup, hop, deux prêtres sont brûlés parce qu'ils n'ont pas respecté le bon code. Alors, abordons ce texte, non pas avec un jugement du troisième millénaire, tellement loin de cette époque-là, qui regarde ça avec étrangeté, mais abordons-le avec qu'est-ce que nous dit ce texte ? Cette question fondamentale. Et ce texte, il est écrit tout entier pour dire le culte que nous rendons à Dieu doit être pris au sérieux. On ne peut pas jouer, s'amuser, faire n'importe quoi du culte. Il y a des règles parce qu'au moment où nous faisons un culte, au moment où nous rendons un sacrifice à Dieu, nous célébrons l'alliance même de Dieu. Et ce texte nous rappelle qu'au désert, le peuple n'a pas que reçu des commandements qui dit de prendre soin de son prochain, qui dit de respecter Dieu, de ne pas avoir d'idole, non. Au désert, le peuple a aussi reçu un culte. Peut-être ne réalisez-vous pas toujours, en tout cas moi je l'ai fait, je crois, deux fois dans ma vie seulement, le texte qui dit la taille que fait l'arche d'alliance, comment il est sculpté, comment est fait la tente de la rencontre, le tabernacle, toutes ces choses qui sont, ma foi, un petit peu longues et difficiles à lire et dont nous ne comprenons pas tout. Et pourtant, cela prend une si grande importance dans le peuple hébreu et dans la Bible. Il est là dès le commencement, au désert, à la fondation de l'identité du peuple. Il y a un culte qui lui est donné. Cette importance donnée au culte, je crois que nous devons la discerner chez les catholiques et encore plus peut-être chez les orthodoxes, dont leur rituel parfois nous dépasse. Ils entrent, ils sortent, il faut être dans le bon sens, debout, dire les bonnes prières de la bonne façon, avec les bonnes images, toutes ces choses qui nous dépassent complètement, qui nous sommes étrangères et que parfois nous ne comprenons pas, parfois nous nous jugeons un peu de haut. Et pourtant, il y a derrière l'idée que le culte que nous rendons à Dieu est quelque chose à prendre le plus au sérieux. Évidemment, il y a tous ces sacrifices de l'ancienne alliance qui renvoient au sacrifice unique fait une fois pour tous de la nouvelle alliance que nous célébrons à travers la scène. Évidemment, derrière, il y a cette blessure que nous avons au fond de nous, la scène censée représenter notre unité, qui est plutôt le sacrement de la division. Si autrefois l'Église s'est disputée sur les termes de grâce, ou de réformation, ou de Luther, elle ne se dispute plus là-dessus. Il y a quelques temps, j'assistais à un service funèbre au Sacré-Cœur où Jean-Marie Berson, le prêtre, a parlé du 500e de la Réforme et combien il fallait réformer sans cesse l'Église. Oui, je crois que de bien des façons dans les idées, nous sommes proches, mais demeure un lieu de division dans cette Eucharistie, dans cette scène, sacrement de la division. Et si je pouvais donner seulement un petit espoir, si la scène est présente dans les trois évangiles, dans les trois premiers évangiles, l'évangile de Jean qui en fait tout un discours sur le pain de vie offert sur la rédemption, au moment de parler de ce dernier repas, nous fait ce cadeau, peut-être, de ne pas parler de la scène, mais de mettre à la place une prière de Jésus qui dit « Père, que mes disciples soient unis. » Comme si aujourd'hui nous pouvions entendre ce Jésus qui sait nos divisions et qui prie pour nous, pour notre unité, là où nous ne sommes pas capables de célébrer la scène ensemble. Cette importance du culte, je la vois à un autre endroit, partager avec vous quelques passages du psaume 150, donc dernier psaume de la Bible, qui conclut ce livre de célébration de louange qui dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez Dieu pour ses hauts faits, louez Dieu selon son immensité, sa grandeur. » Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Entendez-vous dans cet appel du psaume, pour moi, cet appel, cette vocation, je l'entends complètement, pas toujours chez nous, mais souvent dans les églises de réveil, les églises évangéliques, cette idée de la louange fondamentale dans ces églises. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un culte du réveil, et vraiment, je vous encourage à y aller de temps en temps, pour voilà, se mettre face à quelque chose qui parfois nous est étranger et qui est pourtant si important. Les cultes du réveil commencent par 20 ou 30 minutes de louange. Une louange avec les instruments qu'ils ont, une louange avec les instruments modernes, avec leurs paroles, cette louange qui est pour monter dans un état d'exaltation, dans une sorte de liturgie de la louange. Et ceux qui disent que les évangéliques n'ont pas de liturgie, je crois, se trompent profondément. Cela est très bien pensé. Et si j'aborde ce sujet, c'est que je sais que lorsque de nos célébrations ecuméniques, c'est là parfois un point de tension. On entend après dire « Oui, mais alors quand même, là devant, avec la batterie, la guitare, lever les mains, franchement, on ne se reconnaît pas toujours là-dedans. » Oui, effectivement, on ne se reconnaît pas toujours là-dedans. Leur louange n'est pas la même que celle que nous avons l'habitude de rendre. Et pourtant, soyons reconnaissants de cette louange qui est différente, de cette louange qui est si vivante, qui s'exprime avec le corps, qui s'exprime dans la diversité, mais qui s'exprime dans la joie d'un peuple qui loue son Dieu. Le texte suivant que nous entendons est issu du livre d'Ésaïe, le livre prophétique le plus important de la Bible, si l'on en croit le nombre de copies que nous avons retrouvées, notamment à Qumran. Nous l'écoutons.
Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Entendez-vous un petit grincement entre le texte lévitique et celui-ci? Oui, ainsi la Bible est faite que si Dieu a donné au désert un culte pour son peuple, pour le former, pour entretenir ce lien, il a donné tout au long de son histoire des prophètes qui n'ont cessé de critiquer et même de critiquer le culte lorsqu'il le fallait. À travers ces deux choses, on a la loi et les prophètes. Quelque chose qui est donné, qui est fondamental dans tout part, et des personnes qui viennent au temps voulu pour rappeler le peuple, le remettre devant sa responsabilité, et dans ce cas-là, sa responsabilité de justice. À travers cette tension entre loi et prophète, je vois aussi celle de la tension qu'il y a eu au moment de la réforme, où il a fallu critiquer un cléricalisme pour ordonner de rendre les Écritures accessibles à tout le monde et arrêter de les enfermer et de les garder. Et je crois que l'Église a été façonnée aussi par les grandes personnes qui ont sillonné l'histoire de l'Église, qui ont sillonné l'histoire de ce peuple. Elle ne serait pas la même s'il n'y avait pas eu Augustin, François d'Assise, Calvin, Luther King. Vraiment, je crois que toutes ces personnes ont façonné quelque chose de nouveau et ont eu peut-être ce même rôle de critique, de remettre à la place, de rappeler des choses fondamentales comme le fait Ésaïe. Il ne sert à rien d'avoir un culte le plus pur possible si à côté, on ne fait pas le bien, on ne fait pas la justice. Et là-dessus, on peut voir que la Bible n'y va jamais avec le dos de la cuillère quand elle veut faire passer un message. Pour dire l'importance du culte, elle brûle deux prêtres qui apportent un feu étranger. Pour dire l'importance de la justice, elle dit que ce culte est en horreur, j'en horreur l'encens, les nouvelles lunes, le sabbat et les assemblées. quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà ce que je vous demande. Et là-dedans, nous entendons cette tension qu'il y a sans cesse entre la partie spirituelle, peut-être, de la Bible, et ce désir de justice, cette importance de la justice. Une tension qui nous est sans cesse rappelée, je le crois, avec beaucoup de mérite. Par exemple, par l'armée du salut, qui a sans cesse essayé d'unir un culte à des œuvres, à un idéal de justice, à aller auprès des pauvres tels qu'elle l'entendait comme une mission dans l'Église. Quelque chose que nous essayons de porter à travers nos œuvres, et nous entrerons bientôt dans le temps du carême. Ce sera le temps de l'action carême et pain pour le prochain qui s'unissent pour nous sensibiliser à plus de justice sur cette terre. C'est intéressant de voir que cette part justice de la Bible souvent nous dépasse. Aujourd'hui, l'orphelin, c'est peut-être le mineur non accompagné qui arrive à la maison de la ronde. Aujourd'hui, la veuve d'autrefois, donc celle qui n'avait finalement plus de rente et qui vivait aux dépens de la bonne grâce des personnes, c'est peut-être la personne dans un home, toute seule, qui attend une visite, qui est bien seule. Toute cette mission, cet appel de justice qui nous est donné, qui est au cœur de la vie chrétienne, comment le soutenir? Parfois la tâche nous paraît immense. Et là-dessus, je crois que nous devons rappeler le devoir d'unité. Oui, une personne seule ne peut pas accueillir tous les mineurs non accompagnés. Une paroisse seule ne peut pas faire bien les miracles. Si, elle peut faire des miracles, mais elle ne peut pas tout. Mais lorsque nous sommes unis, lorsque pain pour le prochain et action carême finissent, alors des choses se passent. Lorsque l'unité des chrétiens est en œuvre, alors la justice a plus de chances de se faire entendre. Et cela, nous devons entendre aussi dans la mission de l'unité, c'est une mission pour le bien du monde. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes bien plus porteurs de choses. Peut-être que une des grandes forces de l'Église catholique est de savoir garder une unité au-delà des frontières nationales, au-delà des frontières cantonales même. Et du coup, lorsque le pape parle, il représente les catholiques de tout autour du monde. Alors, lorsque notre président, Christian Mia, parle, il représente peut-être l'Église réformée du canton de Neuchâtel, mais il faut avouer que ça a parfois moins de force lorsqu'il s'agit de rappeler une ordonnance de justice dans ce monde. Oui, l'unité des chrétiens est importante pour l'unité du combat de la justice. Et c'est là où je voudrais en venir, à travers la Bible. Il y a une diversité dans la vie. Il y a la loi, mais il y a les prophètes qui le reprochent. Et puis il y a les psaumes et la sagesse. Tout ça, cette Bible de laquelle vient, de laquelle nous venons, ces écritures, elle est diverse. Et nous ne disons pas l'écriture, mais les écritures. Notre unité, je crois, doit être semblable à celle qu'on voit dans la Bible. Des livres différents, qui n'ont pas tous le même point de vue, mais qui sont compris en une première page et une deuxième page, qui sont reliés. Et notre unité, je crois, c'est cette reliée. Lorsque nous acceptons que nous faisons tous partie du même livre avec nos propres différences. Pourquoi n'y a-t-il pas qu'un seul évangile? Parce qu'un seul évangile peut-être n'a pas suffi pour décrire le point de vue, cet événement si formidable de Jésus-Christ, incarnation de Dieu sur terre. Non, il y en a quatre, il a fallu quatre pour le raconter de quatre points de vue différents. Peut-être de la même façon faut-il comprendre que les orthodoxes, les catholiques, les réformés, enfin les protestants, les évangéliques, une église n'arrive pas à elle seule à épuiser l'entièreté de la révélation, tout ce qu'il faut pour comprendre, pour porter, pour être le corps à elle seule de Jésus-Christ, pour être le corps qui porte la présence de Dieu dans le monde. Mais que lorsque ces différentes églises s'unissent en elles-mêmes, lorsqu'elles acceptent d'être compris en une première page, une dernière page, dans ce canon, le canon de la Bible, lorsqu'elles reconnaissent cette reliure qui font d'elles ensemble le peuple de Dieu, alors nous sommes réellement porteurs de cette présence dans le monde. Au commencement, Il n'y avait pas les Écritures, au commencement il y avait un peuple. Et lorsque Jésus, ressuscité, envoie ses disciples en mission, leur dit « Je vous donnerai l'Esprit ». Il leur dit « Inspirez-vous des Écritures, mais soyez envoyés, allez de Jérusalem et partout dans le monde, formez un peuple ». Il n'y a pas encore de Nouveau Testament, il n'y a pas encore d'Évangile écrit. Il y a un appel qui repose sur des personnes, sur l'Église. Cela nous écoute maintenant.
Évangile de Luc, chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. »
Voici l'appel, la promesse, le départ de l'Église. De Jérusalem et jusqu'à toutes les nations, portez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Souffrant, ressuscité, portez le message de la repentance et des pardons des péchés. C'est cet appel que nous faisons, nous, peuple de Dieu, nous, Église réformée, comme part de ce peuple de Dieu, en sachant qu'à nos côtés se tiennent nos frères et sœurs, catholiques, orthodoxes, évangéliques, pentecôtistes, tous ceux qui reconnaissent cet appel et qui veulent marcher à la suite du Christ. Amen.